Bonjour à tous et bienvenue dans L'Art, c'est les autres. Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeons et Hirondelles qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain. Pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, vont nous donner de précieux conseils, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre appli de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine.
Je m'appelle Christine Escobar, je suis artiste plasticienne. J'ai commencé les études d'art à l'âge de 14 ans. J'ai passé un examen dans une école d'art à Cuba. J'ai réussi ce concours. Et après 4 ans d'études, j'ai commencé à travailler pour le théâtre, comme scénographe théâtral, à l'âge de 18 ans. Et puis pendant 3 ans environ, j'ai travaillé pour le théâtre. Et après, j'ai continué avec ma démarche de plasticienne. Ouais. Dès mon arrivée en France en 2001, j'ai passé encore un concours d'équivalence à l'école des Beaux-Arts de Nancy.
T'es arrivée à quel âge en France ?
J'avais 24 ans à peu près.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le théâtre et la France ?
Art plastique. J'ai continué à développer mon travail en tant que plasticienne après le théâtre, même si de temps en temps j'ai plongé quand même dans le théâtre d'une manière ou d'une autre, parce que j'étais scénographe, mais j'étais aussi comédienne pour les marionnettes. Dès mon arrivée en France en 2001, tout d'abord je me suis concentrée à apprendre la langue, et en 2002 j'ai passé un concours par équivalence à l'école des Beaux-Arts de Nancy. J'ai fini mon cursus d'art là-bas jusqu'à la 5e année et j'étais diplômée en 2006.
Et est-ce que tu as vu une différence entre la manière dont on appréhende l'art à Cuba et en France ?
Complètement. L'enseignement artistique à Cuba, c'est très académique. C'est vraiment maîtriser les techniques, photographie, céramique, sculpture, peinture, dessin. On avait par exemple environ 3 heures de dessin par jour académique avec modèle vivant. Et en arrivant à l'école des Beaux-Arts de Nancy, j'ai remarqué que cette académie, elle n'était pas en premier plan. C'était plus faire les choses, mais surtout savoir pourquoi. Et même si les résultats n'étaient pas aboutis comme ils devaient l'être à Cuba techniquement, ce qui m'a permis aussi de faire une espèce de balance en fait entre cette technique apprise à Cuba et puis après toute la théorie que j'ai appris à Nancy. Ça m'a permis de faire un équilibre dans tout ça, ce qui a complété un petit peu les possibilités que j'avais pour pouvoir créer, d'un côté comme de l'autre. Mais il a fallu que je casse tous ces patrons que j'avais finalement avant la création et pendant la création, parce que j'étais formatée en fait pour que ça soit très académique, techniquement bien abouti, bien fait. Il a fallu que je procède différemment pour que cette académie, à la place d'être le plus important dans son œuvre d'art, que ça soit plutôt un outil pour pouvoir aller plus loin dans ma démarche artistique. Voilà. Donc, c'est devenu plutôt un outil et pas comme quelque chose d'essentiel dans mon travail.
C'est vrai qu'on sent, en fait, la double influence, parce que l'objet et l'esthétique est quand même important dans ton travail.
Oui. Dans une première étape, c'est très important. Moi, j'ai besoin de visualiser, même si ce que je vois dans ma tête, ce n'est pas finalement l'issue de la création. À la fin, ça peut être pas du tout ce que j'espérais, ou très similaire, ou encore plus poussé, parce que je laisse toujours une place à quelque chose que j'ai pas envie de maîtriser. Et dans cette première étape, ça devient important, parce que j'ai un travail qui est engagé. J'ai un travail qui parle des problématiques sociales, économiques et politiques, donc moi, je dis des choses qui sont pas toujours agréable à entendre ou à regarder ou à se mettre en face. Et j'ai toujours pensé de manière très convaincue qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose de moche pour dire quelque chose de moche. Et donc, cette beauté formelle de l'œuvre.
Ah, j'ai envie de le mettre en introduction.
Et donc cette beauté formelle, en fait, elle est, cette finition de l'œuvre, pour moi, c'est important parce que c'est, on vit quand même dans un monde qui est très esthétique quand on voit la publicité, quand on voit aujourd'hui les stéréotypes des filles, quand on voit aujourd'hui tout ce qui est autour de nous. En fait, ça passe tout par la beauté. Et c'est une manière de aussi m'adapter au monde dans lequel on vit. Cette beauté, cette esthétique, elle est pour moi importante qu'elle est dans un premier plan, c'est-à-dire pour pouvoir attirer d'une certaine manière les spectateurs vers un objet qui finalement il est très beau et qu'esthétiquement en fait il est presque sublime. Mais c'est plutôt un exercice pour basculer les spectateurs. Avant que je commence à créer une œuvre, je suis toujours envahie par une émotion qui est très forte. Elle est brute, elle est forte et tout mon travail part de cette émotion. Et le processus de création, pour moi, c'est ce moment-là où j'ai ressenti cette émotion et j'essaye de la matérialiser pour pouvoir la faire ressentir aux autres. Et c'est ce processus de création qui, pour moi, il est le plus long. Comment matérialiser cette émotion pour que je puisse la transmettre aux autres, le plus près possible de ce que j'ai ressenti.
Dans ce que tu dis, on a l'impression que tu pars d'une émotion, que tu fais tout un chemin pour arriver à la
matérialiser.
Et du coup, le spectateur, il fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il part de la matérialisation et il revient à l'émotion que tu essayes de communiquer.
Oui, et j'ai remarqué qu'en donnant une esthétique et une beauté à l'œuvre, le spectateur, il peut basculer d'une manière plus forte et plus évidente vers une émotion qui est derrière cette œuvre-là. Quand on gratte un petit peu, c'est là où il découvre les vrais propos. Mmh. Et c'est dans ces moments-là qu'il bascule et c'est là où l'émotion, elle peut ressortir. Des à peu près les plus près que je peux ressentir moi-même tout au départ.
Ouais, finalement, c'est comme rencontrer quelqu'un, quoi.
Une émotion, ça te frappe.
Ouais.
C'est, elle vient te frapper, elle te dit pas, ah tiens, je viens, je suis en chemin, je m'approche. Et c'est cette émotion qui frappe tout d'un coup, qui finalement, il te prend au trip que tu t'attends pas. Et cette émotion forte-là, c'est ça le départ de tout mon travail. Et en faisant basculer les spectateurs de quelque chose qui est beau sur quelque chose qui est vrai, j'ai remarqué que les spectateurs, ils ressentent cette force. Si ce n'est pas la même émotion, au moins, il y a la force de cette émotion qui est ressentie. C'est vraiment un outil, en fait, qui est caractéristique de ma démarche artistique. Et il y a cette influence du savoir-faire et de l'académisme que j'ai reçu pendant des années, depuis très jeune, à Cuba, finalement. Parce que j'avais 14 ans. Donc, c'est quelque chose qui a participé aussi dans ma formation en tant que plasticienne. C'est les choses bien faites, bien finies, et puis les savoir-faire traditionnels d'un pays qui avait pas du tout été dans les développements des premiers mondes, voilà, où il y avait les savoir-faire et les choses faites à la main qui étaient très très présentes. Et ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui dans la plupart de mes œuvres, en fait, je cherche toujours une collaboration avec soit avec l'industrie, soit avec l'artisanat. C'est ce qui me permet aussi de pas pouvoir m'enfermer dans un seul matériau. D'ailleurs, c'est quelque chose que je m'ai interdit depuis très très jeune, de m'enfermer que dans un savoir-faire, dans un matériau. Je vais faire que des choses en bois, ou que du dessin, ou que de la peinture. Et justement, dans cette variété de matériaux, il y a aussi cette variété de discours que j'emploie finalement dans ma démarche artistique. Parce que les matériaux, il va venir comme un complément de l'œuvre. Si je vais parler de quelque chose qui est fragile, et qui est en même temps, c'est un propos qui est acéré, je vais aller vers les verres. Si je vais parler sur quelque chose qui est très lourd ou qui est très présente, je vais peut-être aller vers la pierre. Pour moi, les matériaux, c'est quelque chose qui va aider à comprendre l'œuvre. Ça vient en complément. Je vais jamais utiliser un matériau gratuitement ou une couleur. La plupart de mon travail, soit c'est noir et soit c'est blanc. Et quand il y a la couleur, c'est justifié. Cette suppression de la couleur, c'est venu aussi avec le temps. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que chaque couleur a des fortes connotations, tout comme le noir et le blanc. Mais j'ai remarqué qu'en rajoutant de la couleur dans certaines pièces qui n'étaient pas tout à fait nécessaires, j'ai guidé d'une manière ou d'une autre les spectateurs à aller dans une direction. Et moi, je voudrais que les spectateurs ils puissent aller dans la direction qu'ils veulent. Les noirs et les blancs, en fait, ça fait ça aussi. C'est-à-dire que quand les matériaux ils sont bruts, qu'ils sont pas de couleur, les spectateurs sont libres de pouvoir aller dans n'importe quelle direction. Alors que si je mets du bleu, ils vont ils vont penser tout de suite à la mer ou à l'eau ou au ciel.
Tu parlais des deux formations à Cuba et en France. Est-ce que tu as eu des mauvais conseils durant ces deux formations?
À Cuba, j'ai pas vraiment eu des mauvais conseils. J'étais dans une école où il fallait apprendre chaque technique de manière aboutie. Ce qui m'a servi beaucoup par la suite dans le théâtre, par exemple. Et ici, c'était clair que dans les premières années à l'école des Beaux-Arts de Nancy, cette influence académique n'était pas du tout bien reçue.
Ouais, il fallait détricoter ce que tu avais appris.
Oui, mais c'était pas des mauvais conseils, c'était vraiment peut-être des remarques ou des conversations et des dialogues un peu forts pour moi, qui m'ont peut-être dans un moment donné, ils m'ont enlevé la confiance. Et où j'ai mis tout en question, mais c'était nécessaire pour pouvoir casser avec toute cette influence académique qui était très 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 présente de mon arrivée en France. Donc je dirais pas que c'était de mauvais conseils, je dirais que c'était nécessaire, que c'était au contraire c'était constructif. Ouais. C'était peut-être pas toujours fait de la meilleure manière ou de la manière la plus à droite, mais c'était nécessaire de pouvoir casser avec tout ça pour pouvoir justement remettre tout en question et finalement revoir ma démarche artistique.
Ouais, je pose cette question parce que j'ai fait les Beaux-Arts de Dijon quand j'étais là-bas, mais on m'a donné des conseils surtout si on m'avait proposé d'exposer par exemple, et on m'avait dit mais ne fais surtout pas ça, tu vas griller ta carrière si tu exposes dans tel endroit. Tu sais, il y a un endroit où être, et si t'es pas du bon côté, tu seras du mauvais, quoi. Mais sans qu'on te dise réellement, qu'on te donne des conseils très très avisés, tu vois, c'est genre.
Ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé ici en France, que j'ai pas du tout retrouvé dans des autres pays où j'ai pu travailler, où j'ai pu aller pour m'immerger un petit peu dans la création contemporaine. Mais ici en France, en fait, on a l'impression que tant les artistes, comme les galeristes, comme les collectionneurs, ils sont, alors, attention, pas tous, mais il y a vraiment une généralité de pouvoir classer, en fait, les choses. Et donc, soit t'es peintre, soit t'es pas peintre, soit t'es plasticien, soit tu appartiens pas à la création contemporaine, soit tu appartiens plutôt à l'artisanat, ou alors au peintre de dimanche, c'est une phrase que j'entends souvent. Ou alors, tu fais pas partie des artistes qui sont en résidence, plutôt un artiste émergent ou pas émergent, un jeune artiste. Et donc, tu sais jamais, en fait, exactement où est-ce que tout est classé ou classé ton travail. Alors moi, je vais te dire, j'avance sans tenir en compte rien de tout ça.
Ça, je vais prendre ce conseil-là.
Moi, j'ai fait ce que j'aime faire. Je fais ce que je sais faire, je bosse, et puis il y a des opportunités qui viennent à moi, des autres que je vais chercher parce que je tiens à les vivre, et des expériences que je vais inciter pour que ça soit dans mon chemin. Mais où est-ce qu'on me classe? Alors parfois ils disent que je suis une artiste cubaine, parfois ils disent que je suis une artiste franco-cubaine. Bon. En tout cas, où est-ce qu'on classe ma personne, mon travail, et j'en sais rien, mais peu importe.
Ouais. Donc finalement, toi, pour sélectionner un lieu où tu veux exposer ou un prix que tu veux avoir, c'est que tu regardes qui y est, la ligne, et si ça te plaît, tu fonces.
Moi, oui, c'est une tendance qui, je pense qu'il y a tous les artistes qui sont tendance à faire un peu comme ça, quoi. Qui a eu les prix, qui a exposé dans cette galerie. Oui, c'est sûr que quand on arrive dans un endroit où il n'y a pas un travail qui a à voir avec ta création contemporaine, c'est sûr que, par exemple, moi, je vais pas aller exposer dans un endroit où ils font que, j'en sais rien, j'ai dit n'importe quoi, mais du tricotage, ou je ne vois pas ma place, mon travail dans un endroit comme ça. Donc après, oui, c'est l'instinct un peu, et puis et puis voilà, quoi.
Et alors toi, comment ça s'est passé? C'est parce que ces derniers temps, t'es dans des collections assez connues, t'as gagné un concours ou deux assez réputé aussi. Comment ça s'est passé ces dernières années? Et à quel moment ça a basculé?
On ne ressent pas que je veux dire, on sait qu'on avance tout simplement parce qu'on travaille sans relâche et parce qu'on prend pas de vacances, et on s'est dit qu'au bout de quelques années à travailler 10-15 heures par jour, quelque part, normalement et logiquement, on doit ramasser ce qu'on a semé. On ne ressent pas cet avancement comme quelque chose d'évident. Mais quand il y a un beau prix qui arrive, quand il y a une belle récompense qui arrive, on est soulagé. On est soulagé dans le sens où on dit, putain, enfin. Parce qu'on donne, on donne, on donne, on donne, et ça tarde à se ressentir qu'on reçoit quelque oui. chose en échange. Et quand ça arrive, c'est le moment où on reçoit quelque chose en échange et, par rapport à tout ce qu'on a donné. Et là, c'est très réconfortant.
Ouais.
C'est très réconfortant et c'est un moteur qui nous pousse à dire ah, oui, il faut pas que je lâche, il faut continuer. Beaucoup de fois, j'ai pensé à lâcher. Et comme je pense que 99% des artistes, et moi, je vais m'arrêter pendant 3 ans où j'ai rien du tout fait d'art ou quoi que ce soit, ni exposition, ni rien. J'avais même pas d'atelier pendant 3 ans. Où j'étais dans ces moments-là, pendant ces 3 ans, j'étais sûre que j'allais pas retourner à l'art. Parce que c'est une carrière qui est pas évidente. C'est difficile. Et, c'est difficile parce qu'on a l'impression, justement, de donner beaucoup, de se sacrifier beaucoup, de faire énormément de conceptions. On sacrifie énormément des choses dans sa vie personnelle, des familles, etc. pour quelque chose qui nous tient qui est notre essence, en tout cas l'art, ça fait partie de mon essence. Et parfois on se sent fatigué.
Ouais.
Parfois on se sent fatigué, mais il y a des gens qui nous soutiennent. J'ai des gens qui sont très très chers à mon cœur et qui me soutiennent, même s'ils sont pas forcément là à m'acheter des pièces ou à me mettre à les plus importantes expositions, etc. Mais c'est des gens que tu admires pour le travail qu'ils font. Donc c'est des gens courageux, c'est des gens qui font un bon travail et quand tu ressens que ces gens-là ils croient dans ton travail, ça suffit. C'est un soutien qui nous aide à continuer. Parce que quelque part on fait tout ça pour nous, mais on fait ça aussi pour les personnes qui croient dans notre travail. En 2014, c'était une super année pour moi. Ouais.
Avec l'exposition au premier regard.
Au premier regard, oui. J'ai eu la chance de connaître Laurence Fontaine et Laurence Poirel, que c'est deux dames en fait qui sont formidables. Ils sont très respectueuses de la création contemporaine. Ils sont très respectueuses du travail qui font les jeunes artistes. Et surtout, ils sont là pour soutenir les jeunes artistes qui n'ont pas eu encore l'occasion de montrer son travail au grand public et surtout à Paris. Et ça, c'est vraiment un lieu qui est pour moi unique en France. Où je recommande à tous les artistes, à tous les jeunes artistes, gens diplômés des écoles, d'essayer de pouvoir exposer au premier regard. D'une, parce qu'ils vont rencontrer deux femmes qui sont extraordinaires, ils sont vraiment extraordinaires, ces deux femmes-là. Ils savent et ils connaissent leur travail. C'est des personnes qui sont dans l'art contemporain et qui connaissent très bien leur travail. Et donc, ils permettent aussi de t'amener à un grand réseau. À Paris, et surtout d'avoir cette première regard de où le nom de cette association, du lieu d'exposition, de la galerie, au grand public et à Paris, c'est pas rien.
Ouais.
Voilà. Donc, j'ai eu la chance de croiser mon chemin de ces deux femmes-là.
À quel moment c'est toi qui as été les chercher?
C'était par hasard. C'était tout simplement par hasard. J'ai regardé les résultats des nominés du prix Marcel Duchamp et donc je commençais à regarder en fait un petit peu les nominés cette année-là et puis il y avait une des nominées qui avait eu une première exposition tout jeune diplômée à cette galerie donc moi j'étais allée pour savoir si elle existait toujours et elle existait toujours cette galerie. J'ai constitué un dossier puis j'ai envoyé et puis ça a passé dans la première commission qui était plus une rencontre avec les deux dames, Laurence Poirel et Laurence Fontaine, pour discuter du travail, etc. Et après, en fait, ils ont décidé de présenter ce travail à la commission définitive, à la grande commission. Ils se réunissent des importants critiques d'art et des collectionneurs. Et puis, mon travail avait été accepté. Je suis très reconnaissante par rapport à cette expérience et cette opportunité. Et ces deux personnes, ils sont cool. Et puis la commission aussi, ils sont cru à mon travail. Mais c'est à partir de là que les choses ils ont commencé à un petit peu aller mieux, quoi.
À se décompter.
Ouais. À se décompter, parce que ça faisait des années que que voilà, que j'étais un peu dans mon coin, dans mon atelier, en essayant de faire des choses. Mais par la suite, j'ai eu une proposition, c'est Christian Davis et Estelle Berruyer qui m'ont téléphoné au moment où j'étais à Paris au montage de cette exposition au premier regard pour me proposer une résidence en entreprise. C'est une résidence qui était lancée par le ministère de la Culture, où l'essence de cette résidence était d'amener de l'art dans le monde du travail pour inciter à l'innovation des entreprises. Et il y avait 5 résidences dans toute la France.
Dans des lieux d'industrie,
Donc il
dans...
y avait 5 artistes et 5 entreprises. Et dans la région du Grand Est, il y avait France Lanoir et Vichaton. Ils font la restauration des monuments historiques, qui sont un travail de taille de pierre, mais aussi des menuiseries, des grosses œuvres. Et il y avait cette entreprise-là, et puis il y avait moi. Donc moi, j'ai accepté cette résidence, et puis dans plus d'un an, on a collaboré ensemble, et on a créé cette grosse pièce, le lotissement, qui a été par la suite exposée au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Bien évidemment, au premier regard, j'ai eu la chance d'avoir la visite lors de mon exposition des Guerlains. Ils ont fait acquisition des 9 dessins qui font aujourd'hui partie de la collection Guerlain. Après, j'ai eu beaucoup de contacts, surtout sur Paris, des collectionneurs, des gens qui m'ont soutenu, des gens qui ont suivi un peu mon travail. Après, j'ai eu des problèmes de santé très importants qui ont duré à peu près 3 ans. Et pendant ces 3 ans, j'ai continué quand même à travailler dans mon atelier, à faire quelques résidences. Je suis partie en Inde aussi, en résidence avec l'Institut français. J'étais à Madras, j'étais à Mumbai, j'étais aussi à New Delhi, où j'ai collaboré avec une artiste indienne. Je suis partie en Italie, aussi en résidence. Mon travail a été exposé en Chine, à Qingdao. Il a été aussi exposé à la Foire internationale de Londres. Et puis j'ai eu une fois un appel de Eva de Meleiros, qui est la fondatrice de Dessin Paris, qui avait vu mes dessins à la collection Guerlain et qui était intéressée pour me rencontrer, pour que moi je les présente aux quelques-uns de mes dessins pour exposer à des Dessins Paris. Donc ça, c'était en 2016. Et j'ai exposé à Paris en solo show à des Dessins Paris en 2016. Et j'ai exposé en 2017. Aussi à des Dessins Paris, mais cette fois-là dans le cadre d'une collection, d'une exposition collective avec la galerie Phantom Project Contemporary. Mais j'ai pas de galerie. Je veux dire, je travaille pas, même si j'ai pu collaborer avec quelques galeries, je n'ai pas un représentant galerie. Voilà,
Ton
j'ai pas de
travail est
galerie.
encore à prendre.
Bah, ils veulent pas de moi, je sais pas pour quelle raison, mais on le saura peut-être un jour. Peut-être que je deviens vieille, hein.
Peut-être, hein, c'est ça.
Ouais,
Peut-être que
42 ans, hein.
tu rentres plus dans le cadre des artistes
Des gens
émergents.
émergents. Je suis plus classée. Non, mais c'est pas grave. Moi, je me dis que le plus important, c'est travailler, continuer, et puis, moi, je regarde pas trop ce qui arrive à ma gauche ni à ma droite.
Oui. Et
Et
puis.
encore moins ce qui arrive derrière moi. Moi, je regarde devant, j'avance, je travaille, je fais ce que j'ai à faire, ça me pose trop de questions.
Et du coup, là, tu commences à avoir quand même des collectionneurs qui te suivent et qui t'achètent de temps en temps des pièces.
Oui, depuis 2014-2015.
Ouais. Donc ça y est, ça roule, quoi.
Ça roule parfois, il y a des hauts et des bas.
Comme
Mais
tout.
oui, j'ai des collectionneurs qui sont faits plus qu'une acquisition chez moi et qui suivent mon travail et qui sont intéressés par mon actualité et par les pièces qui sont nouvelles. J'ai des gens qui me soutiennent, ouais.
Est-ce que tu as une newsletter ou est-ce que tu fais en sorte de, dès que tu as quelque chose de nouveau, tu vois tous ces
J'ai
trucs
vraiment pas le temps. Je devrais prendre le temps. J'ai fait peut-être une ou deux fois cette démarche-là, mais j'ai même pas le temps de mettre mon site à jour. De toute façon, je saurais pas faire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, finalement, en fait, c'est un outil qui est aussi efficace qu'un site internet.
Donc ça tu utilises.
Ouais. Ça, quand il y a des choses qui sont un peu nouvelles ou j'ai envie de montrer au public, je vais publier.
Uniquement ton actualité ou un petit peu les coulisses de ton travail?
Quand j'ai envie de communiquer quelque chose, c'est les outils-là que je vais utiliser.
Ouais, t'as pas forcément de stratégie, quoi. Tu
Non.
postes à l'instinct.
J'ai dédié moins de temps à publier mon travail, à faire la communication de mon travail, à bosser, à travailler.
Est-ce que tu aurais un petit conseil pour un artiste qui voudrait se lancer?
N'arrête pas d'y croire. Mais en fait, mon histoire avec l'art, ça a commencé très, très petite. J'avais 7 ans, 8 ans à peu près. Et je suis tombée sur une revue, une très vieille revue. À Cuba, en fait, on était en collaboration avec l'Union soviétique à l'époque, avant oui. la chute du mur de Berlin. Et donc, tout ce qu'on recevait en nourriture, en objets, peu importe, la moindre chose, même les interrupteurs, la moindre chose qu'on avait, télé, etc., chaussures, tout venait de la Russie. Donc, les revues des modes, les revues, les magazines venaient aussi de la Russie. Je me rappelle qu'on recevait une petite revue que j'ai adorée, ça s'appelait Punich. Et on avait même des voitures qui venaient de la Russie. Bon, tout venait de la Russie. Voilà. Et ma mère, elle triait des vieilles revues à l'époque dans la chambre. Il y avait des revues avant la Révolution, il y avait des revues russes, il y avait des magazines, des modes qui venaient aussi de l'Union soviétique. Et puis, j'ai pris une des revues et puis j'ai l'ouvert et j'ai commencé à la fouetter. Et puis, je suis tombée sur une page qui parlait d'un peintre russe. Je ne me souviens pas du tout du nom du peintre, mais il y avait sa peinture qui couvrait 12 pages de la revue. Et c'est une peinture qui s'appelait Dimanche.
Ouais.
Et ça représentait un vieux homme avec une très très longue barbe sur un vélo. Et le paysage, il était complètement apocalyptique. Et il y avait un schéma, en fait, en perspective. Les vieux hommes, ils étaient en premier plan et les chemins, ils se perdaient à l'horizon. Et dans ce chemin-là, on voyait les mêmes hommes répétés en plusieurs fois. Mmh. Comme si on voyait cet homme avancer, comme si on aurait vu cet homme-là ouais. avancer tout le long du chemin. Et ça m'a tué, ce tableau.
Ah ouais.
Ça m'a complètement mis à plat. J'ai ressenti une émotion tellement forte que mes larmes sont sorties à ce moment-là. Ah, ma mère, elle m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? J'étais une gamine. Et puis, je savais pas quoi dire. Je savais pas mettre des mots sur l'émotion que ce tableau, il m'avait donné. Mais je me souviens avoir dit, si un peintre a le pouvoir de me donner cette forte émotion, comme ça, je voudrais avoir ce pouvoir. Et c'est à ce moment-là où, pour moi, c'est une évidence qu'il fallait que je sois artiste. Parce que je voulais ce pouvoir. Je voulais le pouvoir de pouvoir donner des émotions et de faire ressortir des choses aux personnes. Ouais. Et c'est là où ça a commencé mon histoire de l'art impudique. Donc, moi, je me suis présentée au concours de l'école d'art à Cuba à l'âge de 10 ans. Et là-bas, ils m'ont dit, c'est pas possible, tu es trop jeune.
Mais à 10 ans, mais ça se faisait pas. Même,
non.
Même à Cuba, ça se fait pas.
Non. Donc, là-bas, voilà, ils sont rigolés, comme tu viens de rigoler là. Ils m'ont dit, bah, non, mademoiselle, il faut grandir un petit peu. Et puis, je suis retournée à l'âge de 14 ans. Et là, ils m'ont accepté en candidat libre pour passer le concours. Voilà. Et j'ai eu ce concours.
Ils se sont souvenus que tu étais déjà passée à 10 ans?
Oui. Ils se sont souvenus.
Ouais, mais ça doit pas arriver si souvent.
Bah, j'avais même raté tous mes examens de brevet parce que les jours, parce qu'il y avait 3-4 jours de suite des concours à l'école et ça avait tombé exactement dans la même semaine des examens de brevet au collège. Et donc, moi, j'avais fait mon examen, je m'avais pas présenté au brevet et après, je suis retournée au collège pour les examens de rattrapage. Pour les gens qui n'ont pas eu son brevet, j'ai repassé les examens de rattrapage pour pouvoir avoir mon brevet.
Parce que normalement, tu y vas... c'est à quel moment que tu vas dans une école d'art? Il y a quelque chose entre le collège et l'école d'art? Ou tu peux y aller de suite?
À Cuba, il y avait, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait un collège qui était préparatoire. Préparatoire pour les collégiens qui voulaient après passer les concours à la fin du collège. Et ça, c'était une école préparatoire. C'était très difficile d'avoir l'examen, les concours à l'école, si on venait pas de cette école.
D'accord.
Et sinon, pour le général, la plupart des gens qui se sont présentés au concours, ils avaient 18 ans, après le lycée. Mais j'étais trop jeune.
Ouais.
Ouais, j'étais trop jeune. 14 ans, j'avais pas. Même si j'avais l'envie d'être artiste, même si j'étais dans un espèce de paradis de l'antre artistique, parce qu'il y avait tous ceux qui connaissaient déjà de l'art, parce que tant les collégiens qui venaient d'une école préparatoire, ils connaissaient l'art. Et puis les adultes qui finissaient le lycée, ils avaient la maturité, et puis une pratique beaucoup plus importante. même si j'étais bien dans mon élément et qu'enfin j'étais super heureuse d'être là où je voulais être, j'étais trop jeune. J'avais pas ni la préparation ni la maturité pour pouvoir intégrer cette école, je pense. J'avais peut-être, j'en sais rien, les talents, parce que ils m'ont eu, voilà, ils m'ont accepté, mais je n'avais pas la maturité. J'ai appris beaucoup de choses, mais je considère que j'étais pas assez mûre. En tout cas, je n'ai pas un souvenir des choses importantes que j'ai pu faire dans cette école. J'ai eu beaucoup d'ateliers, j'ai eu beaucoup de pratiques, j'ai connu beaucoup de techniques. J'étais pas assez sérieuse pour, à ce moment-là, essayer que mon travail, il aille au-delà de l'école. Et puis, j'ai tombé folle amoureuse à l'âge de 17 ans du théâtre. Même avant l'école, je savais que j'allais travailler pour le théâtre. Mon diplôme, je l'ai passé sur une scène théâtrale. J'ai fait venir tous les jurys dans un théâtre. Par contre, cette expérience du théâtre, ça a été le tout pour moi. C'est ce qui m'a permis de connaître les volumes et l'espace. Avant le théâtre, c'était la gravure, la photo, la peinture, les dessins. Après le théâtre, c'était l'installation. Et ça a complètement changé ma démarche artistique et ça a ouvert ma pratique aussi artistique. Mmh. Et l'effet de travailler en collectif aussi, en équipe, parce qu'au théâtre, on travaille pas au solo, on travaille en équipe. Et l'effet d'essayer d'analyser, de maîtriser un espace où les comédiens, ils sont constamment en mouvement et pour concevoir des scénographies qui sont à la fois fonctionnelles mais à la fois qui ont un sens par rapport à l'œuvre de théâtre. Et toutes ces choses-là, ils m'ont aidé à passer aussi avec l'espace restreint, qui n'est pas restreint, hein, c'est peut-être un peu péjoratif ce que j'ai dit, mais en tout cas, à l'époque, pour moi, il l'était. J'avais cette nécessité d'aller au-delà de l'espace d'une feuille ou d'un tableau, parce qu'une peinture a un espace limité. Alors, le théâtre, pour moi, c'était plus au-delà de cet espace relativement limité, comme une gravure, par exemple, ou un dessin.
Et du coup, c'est dans ce rapport-là que tu vois ta collaboration avec des artisans, parce que tu travailles quand même beaucoup des matériaux dont tu ne crées pas l'objet final.
Je touche toujours un peu mes pièces. C'est une nécessité. Un artisan qui n'accepte pas que je participe dans la réalisation de l'œuvre, c'est pas avec un artisan que je vais travailler.
Ça veut dire que quand tu travailles avec un artisan, par exemple là, je prends juste la dernière pièce parce que c'est... Avec les trophées. Comment ça se passe? Tu commences par imaginer la pièce, faire des protos, des dessins, et puis ensuite tu vas voir un artisan, comment ça se passe?
Une fois que j'avais les objets en 3D créés, que j'avais passé par tous les processus de création, de réflexion, de conception... Et puis, à partir de cette trajectoire, j'avais créé ces objets en 3D.
Tu les as créés en résine, du coup?
En 3D, non, en logiciel 3D.
Ah, pardon.
Ces pièces en logiciel 3D, j'ai laissé montrer à l'artisan, qui par le coup, c'est une entreprise qui travaille la 3D et qui collabore énormément avec des artistes, parce qu'ils sont vraiment dans l'innovation de la taille 3D avec les marbres de Carrara. J'ai laissé présenter les objets en 3D et à partir de là, le dialogue a commencé. Ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, etc. Donc, ils ont été dégrossis par une machine. Alors, ces objets en 3D, en fait, ils sont été amenés dans une machine, dans un robot.
Ouais.
Et avec cette programmation, ils ont été découpés grosso modo avec une machine, pas du tout à la main. Et une fois que cette forme était découpée en grosso modo, chaque objet était amené dans un tour. Et dans ce tour-là, il venait le travail à la main. C'est avec la moelleuse d'abord, après avec les papiers de verre, etc., etc. Et là, dans ce travail à la main, j'ai pas participé tout le long du truc, de la création, parce que c'est 40 pièces en marbre.
Oui.
Ça a représenté quelques mois de travail. J'étais pas présente, mais je peux penser un petit peu, je peux suivre avec eux, j'étais à l'atelier. Après des travaux où j'ai participé tant que l'artisan, c'était dans cette œuvre-là de lotissement, avec l'entreprise France Lanois à Bichaton. Là, on a vraiment, j'ai pu, comme c'était annoncé déjà, donc pour moi, c'était facile de pouvoir rester des mois sur place. Et là, j'ai pu vraiment participer à tous les postes de conception et fabrication de cette pièce. Et là, j'ai appris des choses aussi. Les seuls postes où je ne suis pas où je n'ai jamais participé, parce que c'est un poste d'ailleurs qui était interdit à tout le monde, même à les autres ouvriers et autres artisans, c'était les postes de vernis.
Voilà. Ah oui.
Il n'y avait que les vernisseurs qui pouvaient être dans la cabine et faire le travail du vernis.
C'est où la prochaine fois qu'on te voit?
La prochaine fois qu'on me voit en 2020, j'ai un projet, mais je ne suis pas sûre si ça va sortir. Donc, si ça sort, ça va être super top, parce que ça serait à Marseille. Il y a un délai jusqu'à septembre pour savoir si c'est possible ou pas. Et en 2021, de manière plus sûre, on verra mon travail exposé à Épinal, à la Lune en parachute.
Qui est une galerie?
La Lune en parachute, c'est une association qui a un grand espace d'exposition là-bas, qui est très beau et très grand, et l'équipe est formidable. Et je suis très contente de travailler avec eux pour 2021.
On se retrouve là-bas.
Voilà, s'il n'y a pas de résidence ou des choses qui vont arriver. Et puis, il y a une exposition collective cette fois-ci à Nancy, à l'Octroi, à la fin de 2019, suite à un projet Sonde de Jonction. C'est un projet participatif qu'on collabore avec la ville pour mener ce projet-là sur le quartier de Deux-Rives.
Sur le quartier de Deux-Rives, ça s'appelle comment?
Sonde de Jonction.
D'accord.
Et donc, c'est un projet que j'ai présenté à la ville avec les structures, les mètres carrés. Il y a Julie Fréchel, il y a moi, il y a Emmanuel Potier, et tous les trois, on collabore avec trois scientifiques. C'est un projet entièrement participatif. C'est-à-dire qu'on fait participer des habitants du quartier pour la conception du projet. Et les résultats de ce projet va être exposé en décembre 2019. Décembre, janvier 2020 à Nancy, à l'Octroi, dans le Grand Tal.
Et bah écoute, merci Christina.
Ouais.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à l'interviewer dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir. Ça permet de faire savoir que l'art, c'est les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks, c'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis je ferai mon possible pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeon et Hirondelle, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook. Donc pigeon.hirondelle. Le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeon-hirondelle.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast. Et puis moi, ça me fait du bien. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.